On s'en va rejoindre Luc Lavoie. Bonjour, Luc.
Allô, ça va?
Ça va très bien, toi?
Oui, ça va, ça va.
Le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues, ça a été dévoilé officiellement hier. Je veux qu'on y revienne un peu. 1200 pages, 231 recommandations. Peux-tu d'abord nous rappeler un peu dans quel contexte cette enquête-là avait été lancée, Luc?
Il y avait eu un grand battage médiatique autour de d'une exclusivité du réseau anglais de Radio-Canada sur le sort réservé aux femmes autochtones. Je parle ici des années 2012-13 dans ce coin-là, et ça avait déclenché un débat assez sérieux. Et le premier ministre Trudeau, à l'époque où il était en campagne électorale, qui était donc le chef du Parti libéral, pas encore premier ministre, avait promis de donner suite. Et finalement, ils ont créé cette commission d'enquête qui a commencé dans la totale controverse. La controverse a duré pendant quasiment un an parce que tu avais deux groupes idéologiquement opposés. Tu avais ceux qui disaient « faut utiliser nos pouvoirs d'enquête pour aller voir qu'est-ce qui est arrivé. Telle femme disparue dans telle région, dans telle place, qu'est-ce qui est arrivé? On a des pouvoirs d'enquête pour aller le voir. » Donc, des gens qui voulaient, dans le groupe des commissaires, faire une commission qui portait sur des faits. Puis tu avais une autre faction, c'est elle qui l'a emporté, regarde le rapport, c'est assez évident, qui est, on va voir tous les facteurs sous-jacents au sort réservé aux femmes autochtones. Alors, il y a rien de nouveau dans ce rapport-là, sinon que de nous rappeler que la situation des peuples autochtones en territoire canadien est catastrophique, que notre relation avec les peuples autochtones, nous, descendants d'Européens, a été une catastrophe tout au long. Je pourrais continuer longtemps, mais je sais pas si tu te souviens, mais non, toi, t'es trop jeune, t'es trop millennial, t'es trop jeune. 1991 ou 12, dans ce coin-là, la commission Erasmus Dussault. Erasmus, c'était le nom d'un grand chef autochtone qui avait été à la tête des Premières Nations. Dussault, c'était le nom d'un ancien juge de la Cour d'appel du Québec, René Dussault. Eux, ils avaient fait une enquête sur toute la réalité des peuples autochtones au Canada, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, à tous égards, politique, tout ce que vous voulez. Ils avaient produit un rapport volumineux qui est encore vu comme une référence quand on veut regarder la question des peuples autochtones et la relation que les peuples autochtones entretiennent avec les descendants d'Européens. Alors, cette commission d'enquête-là qui nous a produit un rapport hier s'avère être d'une totale inutilité. D'abord, parler d'un génocide planifié, c'est complètement fou.
Ce terme-là revient 122 fois, Luc, dans
122 fois, on parle de génocide planifié. Écoute, les mots ont encore un sens.
Oui.
Ce qui est arrivé aux femmes autochtones à travers l'histoire est catastrophique. Mais il n'est pas question de génocide planifié. Un génocide planifié, c'est ce que les Allemands ont fait lors de l'Holocauste, c'est ce que les Turcs ont fait, c'est-à-dire les Ottomans ont fait aux Arméniens, c'est ce que Staline a fait aux Ukrainiens. C'est une tentative d'exterminer une ethnie sur un territoire donné ou dans le monde entier. Il n'y a jamais eu... Et donc, planifié, ça veut dire qu'il y a du monde qui s'est assis, là, puis il a pensé à ça comme un... Mais ouais, puis comment on va faire, puis comment on les élimine, puis on fait-tu des chambres à gaz? T'sais, ça, c'est un génocide planifié, puis c'est la chose la plus horrible dans l'histoire de l'humanité. Mais ils parlent pas. Pourquoi ils ont été choisir un terme comme celui-là?
Ouais.
En partant, ils ont discrédité tout le travail qu'ils avaient fait, qui, en passant, a coûté 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Et ce rapport-là, ça va être un ramasse-poussière immédiat, parce que les recommandations qu'ils font, c'est comme des espèces de souhaits généraux. On recommande que la police change d'attitude face aux femmes autochtones. Bon.
Difficile à vérifier. Ça.
On recommande de prendre de la crème glacée à vanille avec votre tarte aux pommes. Tu sais, c'est comme... Alors, je regrette de voir ce que cela a donné. Ouais. Ça me rappelle un peu une autre commission d'enquête qui avait été une catastrophe sur les méthodes de reproduction in vitro. Ça s'est passé dans les années 90. un rapport dont plus personne se souvient, et à juste titre, ça disait tout et son contraire. Mm-hmm. Et c'est ça qu'on a devant nous. Ça ne veut pas dire que la question de la relation avec les peuples autochtones n'est pas importante. À mon avis, elle est une des plus importantes de l'histoire du pays. C'est la tache sur notre histoire. Cette loi essentiellement raciste, qui est la loi sur les Indiens, « The Indian Act », comme on l'appelait, et qui est à la base de nos relations avec les peuples autochtones, est une loi de même type que l'apartheid. Je te donne des territoires sur lesquels, en Afrique du Sud, ils appelaient ça des bantoustans, nous autres, on a appelé ça ici des réserves. Quand tu es dans ta réserve, tu as un certain nombre de droits, tu as un certain statut qui vient avec. Quand tu sors de la réserve, tu n'as plus de droits, tu n'as plus bon. Alors, c'est vrai, c'est une honte nationale. Il n'y a jamais personne qui veut s'y attaquer parce qu'elle vient avec un paquet de cash. Personne veut toucher au cash. Si tu, je n'ai pas le chiffre devant moi, mais je me souviens d'avoir vu un chiffre du genre, si tu regardes tous les Autochtones au pays, puis tu prends ce qu'on dépense pour les Autochtones, je pense qu'on pourrait leur donner pas loin d'un million chacun par année. Tu sais, c'est vraiment fou comme
ça. En exonération de taxes aussi, là?
Ouais, ouais, tout ça. Alors, un rapport insignifiant, à force d'essayer d'être brillant, puis à force d'essayer d'être branché, puis à force d'essayer ceci puis cela,
ouais.
C'est un rapport dont plus personne ne parlera d'ici peu. Et au fond, c'est une étude, d'après ce que j'en ai vu, parce que je te jure que je lirai pas ces 1200 pages-là. Je te le jure. Mais j'en ai lu des petits bouts, là. Tu sais, c'est une espèce d'analyse socio-politico-historico sur la relation entre les peuples autochtones et plus spécifiquement les femmes autochtones et leur société, leur propre société et la nôtre et les policiers et la justice et ceci et cela. Un rapport qui n'a aucune... ne sera jamais pris au ouais. sérieux.
La réaction à la publication du rapport ici à Québec retient aussi l'attention. Manon Massé et Marois Risky ont récupéré le terme « génocide ». François Legault n'a pas voulu s'embarquer là-dedans.
Justin Trudeau non plus, d'ailleurs.
Non, effectivement. Comment tu qualifies la réaction de la solidaire et de la libérale?
Prévisible. Hein? Dans le cas de Marois Risky, je pense que tout ce qu'elle peut dire pour se distinguer, elle va le faire. Parce qu'elle veut être leader du parti. Mais puis Manon Massé, ben excuse-moi, mais elle dit n'importe quoi. Là, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux dire, les pensées profondes de Manon Massé, là, c'est pas quelque chose dont je tiens compte beaucoup dans ma vie. Ah, voilà.
C'est bon. Changeons de sujet un peu, là, que je veux t'entendre sur la vie après la politique. Il y a une journaliste de Radio-Canada Saguenay qui est allée à la pêche avec Philippe Couillard. Puis l'ancien PM dit que la vie est belle au pays des bleuets, qu'il y a du temps pour pêcher, pour lire. Ça doit quand même être difficile de changer de rythme de vie comme ça après une carrière qui est tout le temps là, à 100 000 à l'heure, non?
Ah, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et d'ailleurs, il le dit, le premier ministre, dans cette entrevue qu'il donne là, pendant sa partie de pêche avec la journaliste de Radio-Canada. À un moment donné, là, tout marche sur des roulettes à une vitesse d'enfer. T'es premier ministre, oui, je veux ci, moi, je veux ça, tu lis, cela, tata, 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 18 heures par jour, 7 jours par semaine. J'exagère un peu, mais facilement 15 heures par jour, 6 jours par semaine. Puis tout fonctionne à plein régime, tout ça, puis... Tout à coup, tu te réveilles un matin, le téléphone ne sonne plus. Il n'y a plus des piles de documents de briefing qui t'arrivent. Il n'y a plus de sous-ministres qui veulent te voir. Il n'y a plus de ministres qui sont en train de... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Évidemment, lui, c'était le premier ministre. Alors, je ne veux pas me comparer à lui, mais moi, quand j'ai quitté le cabinet du premier ministre Mulroney en 1991, t'es jeune, Jean-François, je le sais. Je me souviens du choc. Parce qu'on m'en avait prévenu, puis tout ça, mais... Tu sais, à un moment donné, t'es dans le cabinet du premier ministre, puis là, on dit, il faut qu'on règle le problème de transport de ci, de ça, prends la ligne, donnez-moi le chef d'état-major de la défense, bang, il est sur la ligne à peu près 20 secondes plus tard, même s'il est en train de faire d'autres choses. Tu dis, mais général, un tel, l'hélicoptère qu'on a besoin, c'est pas à l'heure tel, c'est tel autre. Puis après ça, t'appelles, je sais pas quoi, le sous-ministre un tel, puis tu lui dis, tu sais, ton article que t'as été mettre dans la loi, là, on n'est pas d'accord.
Ouais.
C'est comme ça, là. Puis tout le monde prend ton appel, là. À un moment donné, le premier ministre te dit, pourrais-tu appeler Paul Desmarais pour l'assurer qu'on va l'inviter à tel endroit comme il me l'a demandé? Oui, t'appelles Paul Desmarais, prends ta ligne. Le lendemain, là, Paul Desmarais, il sait plus qui que t'es.
C'est ça, il n'y a plus de téléphone rouge, là.
Le chef d'état-major, il s'en rappelle même pas de ton nom. Là. Alors ça, c'est un bien plus modeste niveau dans ce que vit Philippe Couillard, surtout que lui, c'est un gars qui est pas fortuné, c'est-à-dire qu'il nage pas dans l'argent pantoute, là. et qui cherche quelque chose à faire. C'est ça, là, c'est ça qui est assez renversant dans son cas. Un surdoué comme lui, probablement le plus jeune médecin, la plus jeune à avoir été reçu médecin au Québec, neurochirurgien avant d'avoir 30 ans, c'est un surdoué, là, c'est un talent exceptionnel. Et là, t'es là, puis je suis bien content pour lui qu'il attrape des wananiches puis qu'il lise des livres, mais...
Luc,
et en passant, là, oui, juste te dire une chose, Jonathan.
Oui.
La wananiche, j'ai jamais vu un poisson qui a autant d'arêtes de ma vie. J'ai-tu raison? Oui,
pas,
Jonathan, je t'écoute.
Oui, ben, ah. Justement, je voulais savoir, Luc, c'est pas un peu anormal de voir un ex-premier ministre aller à la pêche comme ça pour essayer de se trouver un emploi, parce que c'est ça, là. D'habitude, ce que l'on voit, c'est que les anciens premiers ministres, assez rapidement, vont se trouver des emplois, soit dans des cabinets d'avocats ou autres, vont se trouver, c'est rare d'en voir un comme ça qui dit, ouais, je me cherche quelque chose, là, j'attends les offres.
Ben, d'abord, c'est vrai que c'est assez, j'ai été surpris de le voir faire cette entrevue-là, parce que, faut reconnaître à Couillard qu'il n'a jamais été ben Kit Kodak, lui. Là. C'était pas quelqu'un qui courait les médias puis tout ça. Par ailleurs, tu viens de le dire, les autres premiers ministres, qu'on pense à Lucien Bouchard, qu'on pense à Jean Charest, à Brian Mulroney, à Jean Chrétien, ils sont avocats. Ils se retrouvaient dans des cabinets d'avocats quasiment automatiquement. Mm-hmm. Et tandis que l'autre, il est neurochirurgien. Il peut pas recommencer à pratiquer sa profession après 15 ans. Il faudrait qu'il fasse une formation spéciale. Alors, c'est un gars qui... Je suis convaincu que très rapidement, il va avoir des offres pour être sur des grands conseils d'administration assez rémunérateurs et qu'ainsi, il va se refaire une vie. Mais, enfin, je lisais ça, puis je me disais que quel talent gaspillé là, qu'un gars comme ça soit obligé. Et là, je me dis pas, je suis pas en train de dire les électeurs ont eu tort, ils auraient dû voter pour lui parce qu'il était plus intelligent. C'est d'autres choses. L'intelligence, c'est pas la seule chose en politique.
C'est l'individu dont tu parles.
Oui, oui. Alors lui, là, Couillard, c'est un talent absolument exceptionnel. Probablement que son intelligence, très, très au-dessus de la moyenne, le défaut de cela, c'est qu'il semble pas avoir l'émotion qui connecte avec. Là, c'est pas un politicien touché, feely, comme l'était Jean Charest ou... Legault, je le sais pas, je l'ai pas assez vu en personne faire de la politique, là, mais certainement Jean Charest, certainement Jean Chrétien, certainement Mulroney, c'est ces gens-là qui sont capables de... Et à sa façon, Justin Trudeau, jusqu'à temps qu'il fasse un fou de lui en Inde, là, le côté touché-feely, qu'on dit en anglais, là. Très, très, on touche. Bon. Une chose que, par exemple, un gars comme Mulroney, que j'ai côtoyé beaucoup, avait instinctivement, c'est des gens, les grands politiciens, à mon avis, ceux qui ont la combinaison là de ce qu'est un grand politicien, aiment les gens, font pas semblant d'aimer les gens, ils se donnent pas des airs d'aimer les gens, ils aiment les gens, ils aiment entendre les gens parler, ils aiment leur toucher, leur serrer la main, se rappeler de leur nom, tout ça, bon. Voilà.
Puis l'autre aspect que je retiens de l'entretien aussi, c'est que il fait une croix sur la politique. Bon, ça, on s'y attendait, là, mais il veut se tenir complètement à l'écart de la partisanerie. T'sais, au PQ, il y a un problème de belle-mère. Chaque fois, ils reviennent, soit comme commentateurs ou ils vont répondre aux questions des journalistes. Monsieur Couillard a pas l'air de vouloir s'enligner vers ça. Penses-tu que il va tout de même accorder quelques entretiens à l'occasion qu'il va se prononcer sur des enjeux de société?
Ça m'étonnerait énormément. Et qui se prononce sur des enjeux de société dans une nouvelle vocation qui se serait trouvée possiblement, mais comme ça, là, comme une belle-mère qui apparaît dans les journaux et qui dit c'était la fête, une erreur, non. À mon avis, pas du tout. Et je le répète, c'est à la fois une qualité et un défaut, mais principalement une qualité. Il court pas après les médias, ce gars-là. Il a pas besoin de se voir la face dans le journal pour être heureux. C'est un intellectuel, c'est un renfermé, c'est un gars d'une culture universelle. J'avais eu l'occasion, à un moment donné, c'était à TVA, puis on avait reçu ce qu'on appelait un comité éditorial. C'est-à-dire qu'on faisait à peu près, je pense que c'était une heure d'entrevue, puis après ça, chacun des chefs était venu, on passait une heure avec eux à manger les sandwichs et tout ça. Et j'avais commencé à parler avec lui, puis lui, là, écoute, tu le soulèves n'importe quel sujet, son niveau de connaissance est absolument... renversant. On avait parlé de voyager, par exemple. J'avais demandé, vous qui avez voyagé, là, c'est quoi la ville là, qui vous a le plus marqué? Puis il me répond spontanément, Jérusalem. Ah oui, pourquoi? Et là, il s'est mis à me décrire Jérusalem. Écoute, j'avais l'impression d'être là. Ce gars-là, tu sais, puis après ça, on a parlé à un moment donné du musée Le Prado à Madrid, parce que j'avais vécu en Espagne. Il connaissait Velázquez, il connaissait Murillo, tous les grands peintres de la Renaissance espagnole. C'était un gars, c'était un homme d'exception, là, maintenant. Il y a des gens qui écoutent ça, puis ah, c'est tous des voleurs, ça, je commence à trouver ça un peu agaçant, soit dit en passant. Je pense pas qu'on a jamais vu Philippe Couillard avoir l'air d'un voleur, là. C'est niaiseux de dire ces affaires-là, c'est épais, là. Ça n'a pas de bon sens.
Mais il y a tout de même des gens qui considèrent que si c'est pas encore trouvé d'emploi, c'est peut-être qu'il y a encore un peu un côté toxique
pas
à son affiliation au Parti libéral.
Pas en tout. Ça, c'est des histoires inventées par du monde là, qui se racontent des bébelles. Là. Non, pas du tout.
Donc, il restera pas longtemps avec les Wananiche.
D'après moi, là, les Wananiche, puis en plus, il faudrait qu'ils pêchent d'autres choses. Je vais y parler. Il y a trop d'arêtes là-dedans. T'es pas capable de les enlever. Tu manges, tu t'étouffes dans la gorge. Ça n'a pas de bon sens, mais c'est un beau poisson.
Ça a l'air qu'il fait de la très bonne Wananiche fumée. C'est ce qu'on
ah oui, c'est vrai, ils l'ont dit, avec sa propre recette. Avec sa propre recette. Jonathan, tu peux pas en dire autant, hein?
Non.
Bon,
j'aime
tu
la
vois,
pêche,
t'as l'air de
mais
quoi?
Non, le poisson fumé, c'est pas encore mon fort.
Merci, Luc, on se parle demain.
OK, à demain.
Bonne journée, bye.